Hiver.
Couture.
Les gens qui veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez-vous.
Dans le mide.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio. X.
Ouais, ben un autre départ à la CAQ. Sonia Lebel qui annonce qu'il ne se représentera pas.
On quitte le navire,
aïe, aïe. Tu sais, Geneviève Guilbeault hier, Sonia Lebel aujourd'hui, demain.
Demain,
nous
verrons.
Ouais, on verra. Là, Bernard Drinville va-t-il se lancer, lui, dans la course?
Je serais pas surpris.
Ça, tu penses? Oh, oui, il va y aller.
Oui, il va y aller.
Bernard, il est capable.
Il est capable.
Hey, il est braillé pour le troisième lit.
Oui, oui. Bernard, oui, je pense que Bernard va se présenter.
Je pense qu'il est capable.
Il y a Christine Fréchette, Jolin Barrette aussi.
Il y a des cartes. Bernard Drinville, il y a des cartes dans son jeu.
Ça a l'air qu'il est sur le téléphone.
Bon.
Il mesure ses appuis, Pierre.
Ben, c'est parce que cette course-là doit lever, là. Pas sûr qu'avec Christine Fréchette puis Jolin Barrette, ça va lever beaucoup, là. Drinville est capable, il connaît.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est un communicateur, Bernard Drinville, hein. Fait que lui, là, les pitons on-off, là, il est capable. Là. Fait lever une cote d'écoute, là, il est capable. Capable de lever ça, là. On va être à suivre. Notre invité, médecin Karim El Ayoubi, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, vous?
Oui, ça va bien. Est-ce que ça va toujours bien pour le système de soins de santé? Je regarde l'argent qu'on met dans la boîte. Puis c'est Mme Biron hein, qui disait ça aussi de Santé Québec. Elle dit là, la pression vient de partout. Et on dit que cette année, l'année qui va commencer au 1er avril 2026, là, l'année financière, on parle de 66,8 milliards. Hey, c'est de l'argent, pas à peu près. On était à 50 milliards jusqu'à tout récemment, là.
Oui, il y a quelques années, je me rappelle quand j'avais fait le premier programme en 2021 du Parti conservateur du Québec, version Éric Duhaime, on disait 1 milliard par semaine parce qu'on était autour de 53, 54 milliards
ouais,
à peu près.
Ouais.
On s'entend, il n'y a pas une génération qui s'est passée entre 2021 et maintenant. Puis oui, à chaque budget, quand on va au 8 kilos du budget, on voit constamment les dépenses qui augmentent en matière de santé. Puis là, on est rendu, là, l'histoire du 1 milliard par semaine, c'est complètement obsolète.
Oh oui, c'est dépensé, ça, là. Je dis,
arrêtez de dire 1 milliard par semaine. Je dis même ça à Éric Duhaime, des fois. Je dis, arrête de dire 1 milliard par semaine, là. T'es plus dans les chiffres, là. On est rendu pas mal plus élevé que ça. On est à 66, on va être à 66 milliards. Et la courbe, quand on regarde, c'est une augmentation qui va être exponentielle si on continue dans le même modèle. Parce que la population vieillit. Il y a un bon article qui a été sorti récemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On regarde là, le prix des médicaments parce que la technologie augmente en même temps et la population vieillit. Lorsque la population vieillit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous comprenez ça pour les auditeurs, à tous les jours de notre vie, il y a des petits cancers qui se développent dans notre corps. Mais on a des anticorps qui sont capables d'arrêter la prolifération du cancer.
Oui.
Et à un moment donné, ces anticorps-là deviennent de moins en moins efficaces. Ces cellules tueuses de cancer, ils deviennent de moins en moins efficaces avec l'âge. Puis aussi, la théorie des grands nombres fait en sorte que la probabilité, à un moment donné, passe. Quand on est rendu à 80 ans ou 70, 75, il va éclore, le cancer. Donc, plus population qui vieillit, plus de cancer. Et technologie qui s'améliore, donc plus de médicaments biologiques pour traiter les cancers. Mais les médicaments biologiques, je vous donne un exemple, un anticorps qui va cibler des cellules cancéreuses pour les tuer, ça coûte cher parce que ça prend du temps à se développer. Après ça, pour qu'il soit rentable, il y a des brevets qui sont longs. Donc à partir de ce moment-là, les gouvernements se doivent de payer de plus en plus cher pour le vieillissement de la population et pour les médicaments qui sont de plus en plus coûteux. Donc, quand vous faites la petite équation, vous vous rendez compte que si vous voulez soigner tout le monde qui a besoin d'être soigné, la facture explose complètement.
Il disait 2040, là, ça c'est dans 14 ans de ça. Il disait peut-être 120 milliards de ouais. coûts de réseau. Donc ça, ouais. ça veut dire que dans à peu près 15 ans, ça va coûter deux fois plus cher pour le réseau et la population va continuer de vieillir. Ça veut dire que les taxes, les impôts, tout ça, pour payer ce réseau-là, on devrait trouver de l'argent quelque part. Là.
Ça va être. Ben, c'est sûr que les façons de faire, il va falloir absolument shrinker la bureaucratie. Il va falloir se rendre compte qu'avec l'arrivée de l'IA, il va falloir se rendre compte qu'il y a des gens qui vont retourner sur le terrain et qui ne pourront pas être dans les tours à bureaucrates. Ça, c'est inéluctable. Il faut qu'on n'aura pas le choix d'avoir un modèle où est-ce que on n'a presque pas de fonctionnaires pour beaucoup de gens sur le terrain. L'argent, il faut qu'elle parte d'en haut et qu'elle s'en aille sur le terrain. Si vous ne faites pas ça, ben, le calcul, le 120 milliards, c'est... Donc, c'est une des premières choses, rapatrier de l'argent pour minimiser l'augmentation des coûts. L'autre chose...
Mais je ne sais pas si les gens sont conscients de ce qu'on dit, là. Tu sais, parce que quand tu décortiques ça, là, ce que je dis aux gens là, qui nous écoutent, c'est que vos impôts puis vos taxes, ça va exploser dans les prochaines années. Êtes-vous prêts à aller là? Tu sais, on dit que les gens n'ont plus d'argent dans leur poche actuellement. Coût de la vie qui a explosé.
Très, très cher, oui.
L'inflation, tout ça. Là, tu te dis, attends une minute, là, c'est la réalité. Ils vont venir chercher plus d'argent dans vos poches. D'une manière ou d'une autre, là. Ça va être une taxe santé. Il va y avoir quelque chose. On va taxer les employeurs. Il va falloir qu'ils viennent dans vos poches davantage. C'est ça qu'on veut. Et deux, est-ce qu'on peut voir autre chose ou on continue dans la même affaire? On voyait des chroniqueurs de Montréal comme faire le constat la semaine dernière, là, des chroniqueurs dans des grands médias disaient hey, « ça n'a pas de sens, je veux pas vieillir comme ça dans un monde où le système de soins de santé ne sera pas capable de nous prendre en charge. » Mais c'est ce qui attend demain matin les Québécois.
Oui. Si on veut ralentir cette courbe-là, je vous dis pas que la courbe continuera pas de s'accélérer parce qu'avec un vieillissement de la population,
c'est inévitable.
C'est un peu inéluctable. Il y a comme deux choix, c'est-à-dire soit on dit à un moment donné, on couvre pas tout, puis il y a des gens, on peut pas soigner tout le monde, ce qui est pas l'idéal pour un pays du G7, on s'entend. Soit on abat complètement le modèle top-down pour diminuer ces dépenses-là, parce qu'il y a beaucoup de dépenses en santé qui sont des doublons ou des triplons.
Ouais.
Puis pourquoi je parle constamment des partenariats privés-publics, où est-ce que le payeur de soins est séparé du fournisseur de soins? C'est pour amener le plus de concurrence et pour s'en sortir du système top-down où est-ce qu'il y a une grande gouvernance centrale puis plein de bureaucrates, une infinité de bureaucrates pour arriver aux patients en bas puis à l'hôpital.
De haut en bas, là, top-down, c'est ça?
Exact, de haut en bas. C'est ça que ça veut dire. Quand en réalité, ça prend une gestion qui est complètement l'inverse dans un réseau de santé. Bon, c'est pourquoi passer par le secteur privé? Parce que le secteur privé, de par sa nature, il ne fonctionne pas de la façon de haut en bas. C'est sa nature même. Et si vous demandez à la machine, par exemple, Santé Québec, appelle les CIS, les CIUS, puis dites, regardez, là, coupez-nous un peu, là, coupez-nous de la bureaucratie. Ils feront pas ça, ils vont créer un nouveau comité pour évaluer qui ils se doivent de couper.
Ben, ils vont se défendre. La machine va se défendre, là.
Et c'est dans la nature de la machine de se défendre.
Oui, exact.
Donc, pourquoi? Le but, c'est les mêmes êtres humains. Qu'ils soient au privé ou au public, c'est exactement les mêmes êtres humains. Mais la nature du fonctionnement du privé, il est plus efficace, il est plus efficient. Et ça, cette fameuse courbe d'augmentation des dépenses en matière de santé, on peut la ralentir si on met une concurrence maximale dans le réseau à travers les fournisseurs de soins.
Par exemple, mettons, on donne des exemples concrets aux auditeurs.
Oui, OK. Par exemple, les hôpitaux, OK? Les hôpitaux ne sont plus gouvernés par le gouvernement central. Ils sont gouvernés, vous faites des appels d'offres un peu partout, à l'échelle nationale, internationale, ils sont gouvernés par des consortiums privés. Et ces consortiums-là sont en concurrence les uns avec les autres, c'est des compagnies. En Europe, il y a Capio Ramsey, il y a Cleveland Clinic aux États-Unis, il y en a plusieurs. Et eux, leur objectif, c'est de donner les soins le plus rapidement possible. L'argent suit le patient, c'est-à-dire plus vous voyez de patients, plus vous voyez de patients vulnérables, plus vous êtes rémunéré. Et il n'y a pas de négociation de salaire avec le gros gouvernement central pour ce qui est des médecins, des professionnels. Ils négocient directement avec leur employeur.
Donc, un changement de cap total, hein, on s'entend, là?
Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est ça que ça prend, parce que si on ne change pas de cap totalement, je vois mal. Ça fait combien de temps qu'il y a des ministres de la Santé apparemment ultra intelligents? Puis des gens qui eux, sont pas traités de coucou. Bon, c'est des top guns, c'est des gens ultra intelligents.
Bon, il a passé une trollée, là.
Bon, ben à partir du moment, tu sais, il y a quand même une notion, c'est-à-dire, si on s'imagine que de faire constamment la même chose, on va avoir un résultat différent, ben là, c'est plutôt ça, être coucou, tant qu'à moi. Donc, il faut changer complètement de cap. Sinon, la mathématique est évidente, on s'en va dans le mur. Puis là, on s'en va dans le mur, je sais qu'on dit constamment que c'est comme, je veux dire, c'est une hyperbole, des choses comme ça. Non, c'est même plus une hyperbole, c'est la réalité. Donc, changeons de cap. Puis regardons en passant qu'est-ce qui se fait de mieux sur la planète. Moi, ça fait des années que je le dis. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas, ça sort pas de mon chapeau. Comme
non, ça se fait en Europe, là, les pays développés d'Europe. Là.
C'est exactement. C'est ça, les pays. Et comme on parlait la dernière chronique, je me rappelle, on parlait de santé mentale. Au lieu de garrocher tous les patients en santé mentale dans des hôpitaux complètement et dans des hôpitaux généraux qui ne sont pas formés pour ça, créer un réseau, partenariat privé-public, parallèle, qui sont orientés 100% vers la santé avec des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins de première ligne, des infirmières, des super infirmières en santé mentale, des psychiatres, et sortez-les des gros hôpitaux généraux pour faire en sorte que vous allez avoir, et là, vous allez avoir des gains de productivité qui sont très intéressants dans ce type de partenariat privé-public-là. Ça, c'est une autre façon de fonctionner. Plusieurs mini-hôpitaux en partenariat privé-public en santé mentale existent en Allemagne. Ça, c'est une façon de fonctionner. Donc, et de s'en aller vers des modèles où est-ce qu'on a des gains de productivité en raison que les gens, la structure est efficace puis efficiente parce que les gens sont spécialisés. Donc de séparer le plus possible santé mentale des gros hôpitaux généraux et des urgences générales. Ça, ce serait une façon là, également de mieux soigner les gens puis d'avoir des gains.
Du télétravail, pas du télétravail, mais de la consultation en ligne.
Ben oui.
Au lieu de dire aux gens, présentez-vous à l'urgence quand vous ne filez pas, ben peut-être avoir une espèce de centre où on peut avoir la téléconsultation qu'on appelle. Là tu fais la priorité, la ligne 1 est là. Là.
Oui, téléconsultation, puis laisser l'opportunité aux gens, en particulier pour la téléconsultation, de se procurer des assureurs privés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider aussi le concept. Moi, tu sais, je veux que la RAMQ ou l'assurance de l'État demeure l'assurance de base et la référence. Cependant, il faut arrêter de s'entêter à dire que l'État se doit d'être l'unique payeur. Ça ne peut plus fonctionner, cette affaire-là. À 120 milliards en 2040, ça ne peut pas fonctionner.
Mais qui on défend? Qui se défend? Parce que là, on se dit, bon, les boomers qui ont tout eu ne veulent pas rien donner, ils ne veulent pas céder ça, là. Hein, c'est un peu ça, là. Puis les partis politiques vont arriver, puis là, il va y avoir des élections cette année. Là, ils vont essayer de faire du clientélisme. Là. Mais tu regardes jeunes, les jeunes, eux autres, ils vont payer, mais ils n'ont pas accès à la première ligne.
Non, exactement, c'est ça. À partir du moment où vous devez la possibilité, vous devez. D'avoir un seul assureur, pour moi, ça ne fait aucun sens. Okay?
L'assureur étant le gouvernement, là.
L'assureur étant le gouvernement. Dans tout ça. T'sais, les monopoles naturels devraient exister uniquement pour les pouvoirs régaliens de l'État, là, tant qu'à moi. Sinon, il n'y a pas de raison d'avoir un seul assureur, parce que sinon l'assureur va devenir très mauvais. C'est une réalité, les monopoles, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La nature humaine est faite ainsi. Lorsqu'on arrive avec des monopoles, les monopoles ne sont pas performants. On ne veut pas de monopole d'un assureur privé, on ne veut pas de monopole d'un assureur étatique non plus. On veut que l'assureur, que l'État dise tout le monde a l'obligation d'être assuré. Si vous n'êtes pas capable de vous assurer, comme pour les médicaments, l'État vous assure. Cependant, on donne la possibilité de concurrencer cet assureur.
Donc, les assurances collectives pourraient offrir le service, là, parce que y a beaucoup de Absolument. Québécois, c'est leur employeur, il y a les assurances collectives maintenant. Ouais. Là. Tu es obligé, quand tu as 5 employés et plus, tu es obligé d'offrir d'assurance collective à tes employés.
Absolument. Et quand vous avez ce concept-là, savez-vous qu'est-ce qui arrive à l'international, ce qu'on voit? Ces assureurs-là, eux, vont avoir la capacité de trouver, d'être ingénieux et le marché va faire en sorte qu'il va se créer de nouveaux fournisseurs de soins que l'État n'avait pas pensé. Exemple, ça peut être des organismes à but non lucratif et du privé.
Autrement dit, la débrouillardise ferait en sorte, puis comme dans le secteur privé, là, il se créerait une offre.
Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a une demande. La demande en matière de santé... C'est assez facile. Elle est infinie, la demande en matière de santé. T'sais, on a tout mal à quelque part.
On le voit, le gouvernement limite la première ligne pour ça. Là.
Exactement. À partir du moment où vous avez une demande qui est infinie, ben il y a du rationnement qui se crée, mais avec des assureurs, de multiples assureurs compétitifs, ça fera en sorte l'ingéniosité, la débrouillardise, il y aurait de nouveaux fournisseurs de soins qui seraient une petite clinique qui vient juste d'ouvrir au coin de la rue, puis on ne s'imaginait pas qu'elle pouvait nous donner ce service-là. a un groupe d'organismes à but non lucratif, de bénévoles qui s'est installé à tel endroit. Ah, OK, intéressant. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient se créer comme ça, puis l'offre de services augmenterait. Est-ce que ce serait parfaite? Non, parce que les besoins sont infinis en matière de santé, mais elle serait largement supérieure à ce qu'on voit à l'heure actuelle.
Ben, c'est intéressant. Là, c'est de savoir si les Québécois sont prêts à ça, puis l'opinion publique, parce que l'opinion publique est formatée. Hein? Il y a une espèce de tout au, le privé, on n'aime pas le privé au Québec. Il y a du travail à faire, pareil, sur la planche, là.
Oui, il y a beaucoup un travail de communication à faire, particulièrement, tu sais, mais quand on regarde des sondages, les Québécois, parmi les Canadiens, sont ceux qui sont le plus ouverts à plus de privé en santé. C'est toujours au-dessus de 50%, puis parfois même c'est un peu au-dessus de 60%.
Et pourtant, les politiciens, on les entend, puis c'est pas ça qu'ils nous envoient comme message. Hein?
Exactement, puis c'est ça le paradoxe, c'est que lorsqu'on le demande à monsieur, madame, tout le monde dans son salon qui remplit un sondage, oui, il est bien ouvert. Le Québécois moyen est plus ouvert que le Canadien anglais moyen. Les sondages le demandent, clairement. Bon, c'est peut-être parce que notre système est encore plus lent que celui dans la majorité des provinces du Canada anglais. Puis le monde se dit, ben là, on n'a plus grand-chose à perdre. C'est peut-être ça la réponse, mais je ne le sais pas honnêtement. Par contre, quand on arrive en campagne électorale, ça fait peur aux
gens. Ah, ben là, ouais, c'est ça. Ouais.
J'ai même entendu un chroniqueur sur, je crois que c'était à TVA Nouvelle, mentionner, dire, OK, bon, le Parti conservateur du Québec, il se recentre de plus en plus. Par contre, ils sont encore très, très à droite en matière de santé. Ben, très, très à droite, je suis désolé. La Suède, c'est pas un pays très à droite.
Non.
Je veux dire,
les pays scandinaves, là, ouais, ouais.
Les Pays-Bas non plus, l'Allemagne non plus. Je veux dire, c'est pas des genres de paradis libertariens, là. C'est des États surbureaucratisés. La France elle-même, un État encore plus socialisant que le Québec, avec une bureaucratie énorme, ne remettent pas en question le modèle mixte privé-public, là. Et même quand c'est des gouvernements qui sont plutôt à gauche, je me rappelle, comme le gouvernement de François Hollande, à gauche, ne remettait même pas ça en question. Donc, ce qui est difficile, c'est vraiment de passer le message en campagne électorale.
Exact,
on a l'impression qu'on est encore, à l'époque de Mario Dumont, au débat des chefs.
Ouais,
lorsque Jean Charest sort la carte de crédit, on n'a pas tant bougé sur le plan du message que ça. Ça va être intéressant de voir à la prochaine campagne électorale parce que j'ai l'impression que la fenêtre d'Overton, la fenêtre des idées audibles, s'agrandit à l'heure actuelle.
Voilà. Karim El Ayoubi, médecin, merci beaucoup. On se reparle. Bye-bye.
Ça me fait plaisir, au revoir.
Au revoir.
C'est vrai, la fenêtre d'Overton, hein?
Oui.
Ce qui est impensable, là, peut-être une couple d'années, devient pensable aujourd'hui.
Et acceptable.
Ouais.
Mm-hmm.
Je sais pas. Moi, je regarde les factures, ce qui vont rentrer, là. Il y aura pas d'argent, là.
Ben, tu vois, on paye déjà très cher. Regarde le service qu'on a.
Toi, t'es satisfait de tout ça, toi?
Ah, très. J'essaie même pas d'avoir un rendez-vous, regarde.
Le gars, il a abandonné.
Ah, écoute.
T'as abandonné, tu te soignes par toi-même, la médecine
ouais,
alternative,
ça.
Hein, c'est ça. Tu fumes de la sauge, puis tu rentres chez vous, puis comment t'appelles ça, là, de l'encens?
Oui, mais des prières.
Voilà.
C'est ça.
Après la pause,
oui.
On ouvre la ligne.
88-670-9098 pour réserver votre ligne téléphonique. Écoute, c'est...
là, c'est l'hécatombe.
C'est l'implosion. L'hécatombe.
L'implosion.
Geneviève Guilbeault qui a annoncé hier qu'elle ne se représentait pas en politique, donc ne briguera pas la chefferie, ne sera pas candidate aux prochaines élections. Ce matin, c'est Sonia Lebel qui était une prétendante pour devenir peut-être la future chef de la CAQ. On dirait que c'était une bonne candidature, une candidature de pointe, de haut niveau. Finalement, Sonia Lebel a dit ce matin, non, moi, je suis pas dans la course à la chefferie. Et de deux, tout comme Geneviève, je ne me représente pas. Fait que là, il reste qui? Simon-Jolin Barrette? Christine Fréchette?
Drainville?
Bernard va-t-il y aller?
Bernard Drainville, après ça, qui?
Bonne question.
Mais l'autre chose, est-ce que la CAQ va disparaître?
Va-t-elle survivre?
Moi, c'est ça que je vois. Mm-hmm. Je vois un parti qui, je ne sais même pas s'ils vont survivre.
Vous en pensez quoi?
Un député? Deux députés? Je sais
encore.
Pas.
88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy.
Radio X.